Radio G 101.5 FM.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le sens du travail sur Radio G 101.5 FM. Comme un jeudi sur deux, nous allons nous atteler à parler de travail pendant une demi-heure. À 13h, juste au moment de la pause méridienne, serait-ce le moment opportun pour enfin parler de travail ? Eh bien justement, c'est ça la question qui nous anime aujourd'hui dans Le sens du travail. À quoi servent les pauses au travail et quelle est la fonction de la pause café ?
Un café qui donne tout son bon goût dès la première cuillère. Maxwell Qualité Filtre. Très riche en arabica, très riche en goût, si riche qu'une seule cuillère suffit.
Maxwell Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Maxwell Qualité Filtre,
dès la première cuillère,
tout le bon goût du café.
Comme entre amis, quand un mot, un seul geste suffit. Maxwell Qualité Filtre, pas la peine d'en rajouter.
La légende urbaine dit que, comme les agences de publicité ont fait fumer les femmes américaines dans les années 50, en associant l'image de l'indépendance à la cigarette, le coffee break a été suggéré par John Watson, psychologue behavioriste de renom, aux essais Fumons encore, à la compagnie Maxwell, qu'il a embauché à une période sombre de son histoire professionnelle. Si l'on associe l'image d'une belle femme à une bouteille de coca, ou bien une équipe de travail souriante à une tasse de café Maxwell, l'association se fait comme le chien qui salive quand la cloche sonne, si l'on a associé la croquette à la sonnette. Nespresso s'est payé une étude dernièrement qui annonce que les machines Nespresso ont la meilleure note, à savoir 8,6 sur 10, et que les petites capsules de café offertes par les bons patrons seraient plus motivantes que le jus qui coule et qui finit par cramer dans les vieilles Melita. Le symbole de la petite capsule individuelle versus le litre et demi partagé pourrait rimer avec l'individualisation des pratiques. Si les nouvelles formes de management ne cherchaient pas à prescrire cette pause café partagée et à récupérer les trésors d'intelligence collective qu'elle favorise. Aujourd'hui, l'intérêt porté par les grandes marques de café pour vendre l'image d'une cohésion des équipes de travail pourrait se conjuguer à merveille avec les perspectives managériales qui cherchent à coups de corbeilles de fruits, week-end fédérateurs, tables de ping-pong, plantes vertes et autres astuces à soigner l'ambiance de travail et à viser le bonheur en toute simplicité. En tout cas, on boit du café, ou bien on dit qu'on boit du café à la pause café. En tapant « caféine et travail » dans la barre de recherche de Google Scholar, je n'ai qu'un résumé d'article tout à fait inquiétant sur les intérêts d'une caféine modifiée en médicament, dite « caféine à libération prolongée », pour maintenir la performance cognitive ou la vigilance en cas de fatigue ou de somnolence, sans les effets désagréables du café, qui pourrait contribuer à la diminution des risques d'accidents du travail, je cite, « dans un contexte d'augmentation de la charge de travail sur une courte durée ». Pour le reste, le café, le petit jus, aurait des vertus stimulantes, la caféine gardant éveillé, en retardant l'endormissement, le système nerveux central est stimulé, ce qui épargne la souffrance liée à la fatigue. En plus, la caféine améliorerait des fonctions complexes liées à l'intelligence, temps de réaction, vigilance, attention, raisonnement logique, précision de la décision, compétence en résolution de problèmes. Voilà pour le café. Et alors, la pause maintenant. La pause est réglementaire et réglementée. Une pause de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 heures de travail échu. Cette obligation est énoncée à l'article L3121-33 du Code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. Les 20 minutes d'arrêt peuvent être prises avant l'échéance des 6 heures, aux alentours de midi par exemple. En effet, la loi ne prévoit pas de pause déjeuner. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien. L'employeur est donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause restauration par jour. En principe, le temps de pause et de restauration n'est pas rémunéré, sauf s'il est considéré comme du temps de travail effectif. C'est le cas lorsque le salarié reste disponible en cas de besoin pour son employeur. Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Voilà, seigneur, ils viennent tous de la montagne pour vous.
Non, seigneur Miguel, pas assez mûr pour Jacques Vabre.
Et ces grains-là, seigneur, c'est ceux que j'ai vendus les plus.
Non, là aussi, trop vert. Voilà, c'est cela qu'il faut pour Jacques Vabre.
Vous êtes un connaisseur, seigneur.
Voilà un bon café. Et un bon café, c'est un café dont on est sûr.
Voilà un bon café.
C'est du nectar, Pierre, c'est le meilleur de Jacques Vabre.
Jacques Vabre, soyez sûr de faire plaisir.
Ces pauses ont été observées et comprises comme des rituels par la chercheuse Cecilia Brassier-Rodriguez. Elle dit qu'il y a plusieurs pratiques. Je lis. Dans la première, l'ensemble des membres de l'équipe prend la pause en même temps. Ponctuellement, il arrive que le retard dans le travail empêche l'un des membres de participer. Quant au manager, sa présence n'est pas systématique, ce qui produit, comme nous le verrons par la suite, un effet non seulement sur les sujets de conversation, mais également sur les comportements et attitudes des membres de l'équipe. Mais ce qui est plus préoccupant au regard de la fonction de cohésion sociale, c'est qu'il arrive qu'un membre ne participe jamais à la pause café, car il est en conflit avec un autre membre de l'équipe, excluant l'absent de ses moments de convivialité et l'exposant de fait à la réprobation générale. La deuxième pratique correspond à une pause café prise à des moments différents par des groupes formés à l'intérieur de l'équipe, en fonction de leur poste, de leur organisation spatiale, de leur affinité, etc., créant ainsi des sous-groupes qui ne se rencontrent pas lors de ce moment. Dans ce cas, la pause ne permet pas non plus d'améliorer la cohésion de l'ensemble des membres de l'équipe. Enfin, s'agissant de la pause café individuelle, elle correspond à une forme de libre service. Chacun des membres de l'équipe prend son café, fait sa pause quand il le souhaite, seul ou avec une ou plusieurs personnes qui changent chaque jour, souvent même. Le café est bu au poste de travail. Voilà. Alors, faut-il comprendre que les pauses ressemblent à l'activité et qu'en observant les rituels de pause café d'une organisation, on peut se faire une idée de l'organisation du travail, de ses évolutions, de ses réformes, de la répartition des tâches et des rôles, des dynamiques qui traversent les équipes, des contraintes, des difficultés et de la façon qu'ont les équipes de s'organiser face à ces difficultés. La disparition des pauses café elles-mêmes ou leur réapparition peut donner le ton, le climat. Dans un article sur les transformations du travail hospitalier, je lis. Enfin, et ce n'est pas un détail anodin, quoi qu'il puisse en paraître, la pause café a été remise en place. Or, c'est un moment informel très important dans le vécu quotidien du personnel où se libère la parole qui, depuis la mise en place des nouvelles organisations, restait contenue, voire totalement absente. Qu'est-ce qui se dit là et à quoi ça sert ces moments ? We'll be right back. Vous écoutez toujours Radio G 101.5 FM. Vous êtes dans l'émission Le sens du travail, émission aujourd'hui consacrée au post-café. Si le travail formel, le travail prescrit, les réunions d'équipe, la coordination forment la part visible du travail, il y a tout un registre qui serait comme la part immergée de l'iceberg. C'est de l'ordre de ce qui se vit, de ce qui se vit dans le corps, de ce qui s'éprouve, de tout ce qui traverse l'humain au travail, tout ce qu'il invente pour faire son travail avec et parfois malgré les procédures. Il y a donc des règles formelles, puis leur versant informel, celui qui se construit dans la coopération, en échangeant, en délibérant autour des pratiques, en connaissance de causes partagées, pour faire du bon boulot ou pour éviter de trop souffrir face à des situations qui peuvent générer une forme de souffrance. Ces règles s'entretiennent et se renouvellent collectivement dans des situations qui ne se voient pas de l'extérieur, dans les couloirs, dans les vestiaires, dans les pauses café. Ces règles sont des règles éthiques, des règles de présentation, des règles sociales, des règles techniques, mais aussi des règles langagières. Et si la pause café est un des lieux privilégiés de la coopération, c'est parce qu'on y parle. Écoutons Christophe Dejour à ce sujet.
L'isolation de chaque individu est l'objectif de cette méthode de direction des entreprises, qui est la forme concrète que prend le néolibéralisme dans le monde du travail. La solitude, voire la désolation, c'est-à-dire le terme qui a été choisi en français pour traduire la notion de loneliness chez Hannah Arendt, la solitude, donc, voire la désolation, sont la matérialisation de la maxime néolibérale qui a été énoncée par Margaret Thatcher. Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Reprise aujourd'hui par le New Public Management, la coopération, je cite, est le cache-sexe de la déresponsabilisation. Nous voulons des individus responsables. La destruction des liens d'entraide et de coopération se traduit par l'explosion des pathologies mentales. Mais dans le même mouvement, la destruction des liens de coopération a aussi des effets désastreux sur la productivité et sur la qualité. Le défaut d'entraide dans le travail oblige chaque individu à des efforts supplémentaires pour tenter de compenser l'effondrement de la coopération. D'où résulte une explosion des pathologies de surcharge. De surcroît, chacun tente de combler l'absence de coopération vivante par des demandes d'information et des réponses à des demandes d'information qui envahissent les boîtes e-mail et génèrent et gênent le travail de production proprement dit. L'analyse du tournant gestionnaire aboutit à la conclusion qu'en détruisant la coopération, les nouvelles méthodes d'organisation du travail dégradent la qualité de la production, nuisent à la productivité et génèrent dans le même mouvement la détérioration de la santé mentale au travail. À cette évolution, il n'y a aucune fatalité. Il est possible de reconstruire les conditions de formation de nouvelles modalités de coopération dans les trois dimensions de la coopération horizontale, de la coopération verticale et de la coopération transverse avec les bénéficiaires ou les clients. Il s'agit donc de reconstituer, pour reprendre le titre de cette journée, de reconstituer de nouveaux liens, et en particulier de nouveaux liens entre les travailleurs. Mais pour ce faire, le retour à l'analyse du travail réel est ici incontournable. En effet, la coopération ne tombe pas du ciel. Elle est fondée d'abord et avant tout sur une connaissance de mon travail par les autres et sur la connaissance que j'ai de leur façon à eux de travailler. Or, le travail vivant repose sur l'engagement subjectif de l'intelligence dans la gestion du décalage entre le travail prescrit et le travail effectif. Il en résulte que l'essentiel du génie de l'intelligence, qui est au fondement de la création de valeur, n'appartient pas au monde visible. Le travail vivant n'est ni observable ni mesurable. Il n'est connaissable qu'en passant par la parole de chaque travailleur, parole sur l'expérience qu'il fait du réel dans son travail et des solutions qu'il invente pour surmonter les obstacles que le réel lui oppose. En d'autres termes, la coopération repose sur la parole et sur l'écoute du travail dans des espaces spécifiquement voués à cette confrontation des expériences subjectives du réel, en vue de construire des accords sur les modus operandi et d'élaborer ensuite ensemble des règles de travail. Ces espaces sont désignés sous le nom d'espaces de délibération. Ces espaces de délibération, à leur tour, ne tombent pas du ciel. C'est précisément la responsabilité du manager que de rendre possible la délibération en vue de la coopération. Il s'agit donc d'une conception du management qui accorde cette fois la priorité à la mise en visibilité du travail vivant et à la délibération entre les travailleurs orientée vers la coopération. Ce management s'apprend et se transmet. Des expériences ont déjà été faites depuis plusieurs années qui aboutissent à des résultats convaincants au regard de la productivité d'une part et de la santé mentale au travail d'autre part. Le choix du management coopératif représente un investissement immatériel. La maîtrise de la théorie et des principes de cet investissement est nécessaire pour pouvoir aborder la question qui sera débattue aujourd'hui d'un modèle économique capable d'en tirer les bénéfices, tant du point de vue de la production de valeur que de la reconstruction du vivre ensemble et du travail comme médiateur de l'accomplissement de soi et de la santé mentale.
Voilà un texte issu d'une recherche en psychodynamique du travail. Des chercheurs sont intervenus dans une institution psychiatrique pour adolescents auprès de soignants. De ce qu'ils ont entendu, ils disent: l'exercice de la narration impose non seulement de mettre en forme son vécu en ayant recours aux mots, mais aussi de mettre en scène, par le truchement du corps, une partie de ce qui reste du côté de l'informe et de l'incompris. Le récit emprunte souvent une forme théâtralisée de ce qui échappe, la mise en avant de sa vulnérabilité, de son incompréhension, de son sentiment d'impuissance et la façon dont chacun se bat avec. Nous avons compris que dans cette manière de nous répondre en racontant des histoires, les soignants parlaient de leur rapport subjectif au travail et qu'ils ne pouvaient pas mieux le dire. Cette façon de rendre compte de la lutte contre l'informe rencontre un écho chez ceux qui connaissent ce travail. Leur appui est alors précieux pour relancer la pensée là où cette dernière ronronne ou achoppe. La mise en récit adressée à autrui, ce vouloir dire expressif, parle du travail réel, de ce qu'ils font ensemble, de la façon dont ils construisent du sens face à l'insensé, et non pas uniquement de ce qu'ils devraient faire. L'anecdote, l'histoire, le récit du soin constituent alors autant de façons privilégiées de rendre compte de son travail, mais aussi de faire face aux tensions et aux contradictions, surtout lorsqu'il s'agit de rendre intelligible ce qui se joue dans l'ici et le maintenant de la relation avec les adolescents. La recherche de sens, ce qui est partagé et leur raison d'être ensemble, se trouve convoqué dans la mise en récit adressée à autrui. C'est d'ailleurs ce que nous avons été amenés à formuler à notre façon lors de la séance de validation, rejoint sur ce point par une formule utilisée pour rendre compte des objectifs du centre. Il ne s'agirait pas de guérir, mais de se raconter une histoire à plusieurs. Voilà. La façon de dire donc ce que l'on fait avec ces mots-là, cette mise en scène si particulière, a bien à voir avec ce que l'on fait, avec son corps au travail. Et Pascale Molinier, psychodynamicienne, a étudié ces modes de narration propres au post-café, les récits de post-café. Elle écrit: les récits de post-café désignent ce mode de narration très fréquent dans les équipes de soins, où ces histoires sont déployées dans l'entre-soi, dans des moments de convivialité, quand les gens prennent le temps de traîner ensemble. Tout d'abord, ces récits prononcés à la première personne racontent une aventure qui souvent commence sous les auspices de l'effroi ou d'une peur causée par la confrontation traumatique avec le réel sous la forme de la mort brutale, de la violence ou d'une pathologie inattendue. Ici, le couteau et la fureur de la bouchère. Ailleurs, une ASH découvre un pendu dans un appentis. Une élève infirmière se retrouve enfermée dans une chambre avec un cadavre. Une cadre infirmière doit maîtriser une femme de ménage intérimaire en état de crise hystérique. Dans d'autres histoires, le réel n'est pas figuré par la soudaineté de la mort ou de la violence, mais sous une forme plus chronique. C'est la remémoration de l'obscénité des paroles proférées de façon récurrente par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pendant une animation réalisée par des bénévoles bon chic bon genre qui déclenche le fou rire d'un groupe de soignantes, parmi lesquelles médecins coordinatrices et psychologues. Dans ce récit à la première personne, celle-ci se décrit d'abord comme ayant provisoirement perdu tous ses moyens, ou presque. L'ASH qui trouve le pendu tombe en arrière dans un fracas d'urinoir de vieille potence à perfusion qui était remisée là. L'élève infirmière paniquée de découvrir mort le patient à qui elle devait prendre l'attention bloque la porte par une fausse manœuvre, s'enfermant elle-même avec le cadavre et ainsi de suite. C'est donc d'abord l'expression singularisée de la maladresse, la vulnérabilité ou la panique face au réel qui déclenche l'hilarité, dans un contexte où tout le monde sait déjà que le ou la principale intéressée s'en est sortie, puisqu'elle est là pour le raconter. Le récit lui-même met d'ailleurs en intrigue le retour de la maîtrise, le moment de perte de maîtrise où fréquemment le corps s'effondre et ne répond plus convenablement est rapidement suivi d'une reprise du sang-froid. Sinon, l'histoire serait juste flippante. L'ASH, décrivant sa frayeur et sa chute, roule des yeux, grimace et gesticule. Et alors, demande ses collègues qui rient beaucoup du spectacle, elle redevient imperturbable et répond « Eh bien, que voulez-vous que je fasse? J'ai sorti mon ciseau et j'ai coupé la corde. » On retrouve ce caractère ciselé dans les récits de post-café, généralement d'autant meilleurs qu'ils ont été maintes fois racontés. Il est évident que l'ASH, par exemple, a déjà narré d'autres fois son histoire du pendu, ce qui lui donne une perfection d'exécution entre le choix des mots, les intonations de la voix, la gestuelle et les mimiques, véritable petit sketch humoristique sur le mode tragicomique. La marque de fabrique de ces récits est sans conteste l'autodérision. On se moque de soi, on s'y montre soi-même sous un aspect ridicule, comme l'on accepterait que personne ne le fasse à notre place.
Vous rêvez d'avoir le choix d'une expérience inédite avec votre machine espresso à capsule. Imaginez tout l'arôme qui vous envahit. Imaginez une capsule transparente, unique, révélant un café pur, 100% Arabica. Vous ne rêvez pas, cette capsule existe. C'est l'or espresso. Goûtez à la différence. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Disponible en supermarché.
Vous écoutez toujours Le Sens du Travail sur Radio G 101.5 FM, une émission aujourd'hui consacrée à la pause café.
Café ouvre la route des grands cafés. Du Costa Rica au Guatemala, du Nicaragua à la Colombie, Nescafé est allé partout. Plantation d'Amérique latine, haut plateau à 3000 mètres d'altitude, vaste plaine, vallées riches et profondes. We'll be right back.
coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Nescafé, il est allé partout, là où poussent et se plaisent les meilleurs cafés. Pure Colombie, un café subtil, délicat et parfumé, pour les palais raffinés et sensibles. Pure Arabica, à l'arôme puissant, pour les amateurs de café riche et savoureux. Pure Colombie, pure Arabica, deux grands crus du café par Nescafé.
Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ces pauses café, si ce n'est les règles que l'on réinvente chaque jour face au réel, celui qui met en échec ? Pascal Molinier continue. Ces histoires décrivent des personnes au bord de la catastrophe, pour qui il s'en est fallu de peu et comportent toujours une leçon, où la réussite a souvent à voir avec une transgression momentanée des règles. On peut entrer dans le délire des patients, on peut cesser d'être la chef, on peut se moquer de l'orthopédie normative, la dite animation qu'on impose aux vieillards séniles en institution quand il est évident que n'ont pourtant rien demandé. C'est l'une des dimensions importantes de ce qui fait rire dans ces histoires. Elle dévoile le poteau rose. Pour que ça marche, il faut souvent contourner les consignes, désobéir, ne pas faire ce qu'on vous dit de faire, voire ce que nous disons qu'il faut faire. La fin justifie les moyens, et l'ensemble de ces histoires construit jour après jour l'odyssée de la métisse, cette intelligence rusée, celle d'Ulysse ou du renard, qui vient à bout des difficultés quand les méthodes officielles sont mises en échec par la résistance du réel. Une intelligence courbe, mais surtout une intelligence enracinée dans la corporéité, ce corps sensible, modifié et singularisé par l'expérience. Alors, voilà ce qui se dit en psychodynamique du travail sur les récits de pause café. Ici, j'ai parlé des collectifs soignants parce qu'il faut dire qu'on trouve facilement des études sur ces collectifs-là. Mais ils fonctionnent selon leurs règles et n'ont ni les mêmes règles, ni les mêmes stratégies de défense que les collectifs masculins dans les métiers dits à risque. Ceux-là sont étayés sur le déni de la vulnérabilité, ce qui n'est pas le cas chez les collectifs infirmiers notamment. À suivre, peut-être dans une prochaine émission avant la fin de l'année, nous zoomerons sur la souffrance des collectifs masculins. En attendant, je vous souhaite de bien bonnes pauses café. À dans 15 jours pour une nouvelle émission du Sens du Travail.
Walking in the midnight sun.
Ce qu'il faut, c'est beaucoup de viande et celui qui vous parle, il a l'œil pour les bons morceaux.
Caresse métallique sur Radio G 101.5 FM, un mardi sur deux de 22h à minuit, l'émission qui te déchire les tympans.